Bonsoir à tous. Je vais vous lire le plan que j'ai mis au tableau puisque je n'ai pas fait de feuille de route. Donc l'intitulé de la séance d'aujourd'hui, c'est « L'euthanasie comme rupture de l'alliance thérapeutique ». Alors je commencerai par une introduction sur cette expression « alliance thérapeutique ». Et puis j'aurai un chapitre de morale fondamentale, pourquoi nous faisons bien de nous opposer à la légalisation de l'euthanasie, qui comportera trois sections, le bien, le corps, la solidarité. Et puis j'aurai une dernière partie sur la dignité de la personne humaine et l'estime de soi. Voilà, quelques réflexions d'abord autour de l'expression « alliance thérapeutique ». Cette expression est apparue dans le monde des psychothérapies. On la trouve déjà dans les écrits de Sigmund Freud. Elle sert à désigner le fait qu'une psychothérapie ne porte des fruits de guérison que si le patient s'implique avec confiance dans le processus. Donc une confiance que les attitudes du thérapeute peuvent susciter et entretenir, ou au contraire empêcher. Il n'est pas étonnant que ce soit dans ce domaine-là que l'expression soit apparue. Lorsqu'une aspirine ou un antibiotique doit produire son effet, il n'est guère nécessaire que la relation entre le médecin et le patient soit très élaborée. J'ai néanmoins constaté que certains auteurs ont appliqué l'expression « alliance thérapeutique » à la relation médecin-patient en général. Comme Paul Ricoeur, qui a préfacé le code de déontologie médicale français de 1996, Patrick Verspiren du centre Laennec à Paris, Dominique Jacquemin du comité d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille, et enfin Brice de Malherbe, prêtre de Paris, ancien de l'IET, dans le recueil qu'il a dirigé et intitulé « Limiter ou arrêter des traitements en fin de vie ». Pour Paul Ricoeur, l'alliance thérapeutique est le noyau du développement d'une éthique de la médecine. Autour de ce noyau, où le praticien exerce son art avec la vertu de prudence, donc au sens aristotélicien, un jugement instruit par la science et surtout l'expérience. Donc autour de ce noyau se développera l'enveloppe de la déontologie médicale. Donc on a l'alliance thérapeutique au départ, et autour, la déontologie médicale va définir les règles des comportements attendus d'un bon médecin, de tout bon médecin, alors que dans le noyau de départ, il s'agit de tel médecin singulier avec tel patient singulier. Et autour du code de déontologie médicale, l'enveloppe ultérieure qui sert à se guider au point de vue éthique, c'est le rapport à la société dans son ensemble par le corps des lois concernant la santé et votées par les assemblées parlementaires. Je retiens ceci. Pour Paul Ricoeur, l'alliance thérapeutique lie le médecin et le patient contre l'ennemi commun qui est la maladie. Elle revêt une dimension éthique pour Paul Ricoeur parce qu'elle suppose de part et d'autre une promesse. Pour le médecin, la promesse de faire tout ce qui est en son pouvoir pour vaincre la maladie et de ne pas abandonner le patient en cours de traitement. Et pour le patient, la promesse de mettre en œuvre le traitement que le médecin lui prescrira. La relation d'alliance est donc symétrique, puisqu'il y a engagement réciproque, et asymétrique du fait que l'un a, au moins dans le domaine de la santé, un pouvoir que l'autre n'a pas, et auquel précisément cet autre s'adresse comme dans une situation de détresse. Paul Ricoeur et des médecins ont exploré ce qui fait tendre l'alliance thérapeutique vers plus de symétrie. Je n'entre pas dans ces détails pour m'intéresser un instant à l'étude de Dominique Jacquemin. La présence d'une relation à la fois asymétrique entre partenaires inégaux et symétrique de par l'engagement mutuel dans l'alliance l'a amené à faire des comparaisons entre l'alliance biblique, entre Dieu et son peuple, et l'alliance thérapeutique. J'en retiens ici un seul élément. Le médecin qui a le pouvoir ne doit pas se prendre pour Dieu. Il ne peut pas tout. Mais pour moi, l'apport de Dominique Jacquemin présente l'intérêt de voir l'alliance dans un ensemble plus large. En effet, l'alliance thérapeutique entre le médecin et le malade qui demanderait l'euthanasie ne concerne pas que ces deux protagonistes. Elle concerne une équipe de soins et au-delà, elle nous concerne tous. Elle concerne la société qui veut légiférer dans ce domaine. Et donc quand je parle de l'euthanasie comme rupture de l'alliance thérapeutique, je ne parle pas seulement du médecin qui trahirait sa promesse, mais de notre responsabilité sociale vis-à-vis de cette situation. Je passe à ma section de théologie morale fondamentale. Pourquoi nous faisons bien de nous opposer à la légalisation de l'euthanasie ? Mon point de vue n'est pas celui de l'éthique médicale ici, ni de la morale sociale, dont pourtant le commandement « tu ne tueras pas » qui est en jeu est le fondement principal, mais je parle du point de vue de la morale fondamentale. En effet, ce qui est en cause à la racine, c'est la question du bonheur. Accepter l'euthanasie, c'est confirmer les citoyens dans l'idée que le bonheur est uniquement fonction de ma volonté individuelle et de l'image que je m'en fais. Donc je répète ceci, accepter l'euthanasie, c'est confirmer les citoyens dans l'idée que le bonheur est uniquement fonction de ma volonté individuelle et de l'image que je m'en fais, image du bonheur. Il y a là une triple rupture. D'abord, le bonheur est coupé de la possibilité que le bien existe et se donne à moi, puisqu'il ne dépend que de ma volonté individuelle et de l'image que je m'en fais. Le bonheur est coupé de la possibilité que le bien existe et se donne à moi. Deuxièmement, le bonheur est coupé de ma réalité corporelle pour ne dépendre que de mon vouloir. Si je veux mourir, c'est mon bonheur, dit celui qui accepte l'euthanasie. Et troisièmement, mon bonheur doit être rendu indépendant de celui des autres. Si à moi tout seul je décide que je veux mourir, eh bien ça devrait être mon bonheur. Donc le bien moral, le corps ou les corps et la solidarité sont mis en cause ensemble, alors que les trois ensemble contribuent au bonheur de l'homme en interaction. Mais cela est empêché et d'abord nié par le choix de l'euthanasie, que ce soit pour soi-même ou pour un autre. Je prends la première question. Le bonheur dépend-il de mon vouloir ? J'insiste, du vouloir, pas de mon corps, du vouloir qui est mien. Dans la cité de Dieu, saint Augustin reconnaît que l'homme qui ne fait pas ce qu'il veut n'est pas heureux. Il est vrai que tant que je sens le poids de la contrainte sur mon action, je ne suis pas pleinement heureux. Il y a donc une part de vérité dans ma revendication de pouvoir agir comme je veux. Mais Augustin ne s'arrête pas là. Il dit « L'homme qui ne fait pas ce qu'il veut n'est pas heureux. Mais quand bien même il ferait ce qu'il voudrait, il ne serait pas heureux si ce qu'il veut n'est pas le bien. » Donc c'est cet ajout que la morale ultralibérale tend à perdre de vue. Quand bien même l'homme ferait ce qu'il voudrait, il ne serait pas heureux si ce qu'il veut n'est pas le bien. Il y a donc une dimension objective au bonheur, contrairement à la croyance que le bonheur est subjectif, ou uniquement subjectif. Cela apparaît frustrant à la volonté, qui voudrait pouvoir faire tourner le monde selon ses caprices. Et reconnaissons-le, tous nous souffrons plus ou moins bien, de ce que le monde ne soit pas comme nous le voudrions, et surtout de ce que les autres ne se comportent pas comme nous le voudrions. Donc, le fait qu'il y ait une dimension objective au bonheur peut contrarier la volonté, au moins en tant qu'elle est capricieuse. Mais il y a une bonne nouvelle dans le fait que je ne suis pas tout seul quand il s'agit de faire mon bonheur. Le fait qu'il y ait une dimension objective me sort de la solitude quant à la question du bonheur. Il existe un bien, vraiment bien, provisoirement en dehors de ma volonté, et qui se propose pour que je collabore avec lui en vue de connaître le bonheur. Je n'ai pas à définir ce bien ici. Je peux me contenter de dire qu'il englobe la bonté des deux autres réalités, dont l'euthanasie et la négation, l'existence corporelle et la bienveillance mutuelle. La solidarité qui fait que les uns et les autres se sentent accueillis dans leur existence corporelle. Je conclus cette petite section sur le bien qui est une dimension objective, qui constitue une partie du bonheur, en disant ceci. Si quelqu'un ne veut pas vivre, et que par son action il met fin à ses jours, sans que j'aie pu l'en protéger, ce n'est pas un bien. Ce n'est même pas son bien. C'est un drame que l'on accueille dans les larmes. Sur la dissociation entre la volonté et son existence corporelle, deuxième section là, l'euthanasie n'est qu'une autre manifestation de cette tendance dont le père Dijon a montré les effets dans le droit et le père Bonnewein dans l'anthropologie mécaniste sous-jacente au gender. Le fait d'être remis à soi-même, ce qui ne veut pas dire à soi-même exclusivement, est une réalité d'ordre spirituel. La volonté a une consistance réelle, propre. Mais ce qui m'est confié, c'est mon existence corporelle, parmi les autres réalités corporelles. Je suis une réalité spirituelle, par mon intelligence, ma mémoire, ma volonté. Je suis un corps, et surtout, comme je l'ai lu chez le père Fessard, je suis l'unité des deux. Je suis un esprit, je suis un corps et je suis l'unité des deux. Nous avons vu que c'est précisément cette unité qui est préservée lorsque des époux s'unissent pour fonder une famille. Et cette unité est mise en question quand l'intermédiaire de la technique s'avère incapable de reconnaître dans les gamètes fusionnées autre chose que des cellules ou une morula, ou pire encore, du point de vue appellation, du matériel génétique, et non plus un enfant, notre enfant. C'est comme pour la consécration, donc quand le moment est important, une petite clochette, si nous avons droit à un avertisseur sonore que le sujet est sérieux. Ça ne devrait pas durer plus d'une minute. Voilà, la technique ayant cessé son lobby d'intermédiaire de rupture. Nous allons continuer. Donc l'unité qu'est l'être humain, corps, esprit, et donc qui est préservée, je dis, lorsque des époux s'unissent pour fonder une famille, c'est-à-dire lorsque ce qu'ils espèrent de leur union est un enfant, est mise en question lorsque la technique dissocie les choses et fait que ce qui est fusionné n'est plus un enfant, mais des cellules, une morula, du matériel génétique. Quand je parle d'un bien dans le fait que l'homme soit cette unité d'un esprit et d'un corps, il n'est pas question de prétendre, contre l'évidence même, que l'existence corporelle d'une personne incurable est soumise à des douleurs sur toute la surface de sa peau, ou interne et sans répit, ou perturbée par la démence. Il n'est pas question de prétendre que l'existence corporelle de cette personne doit être dite lui faire du bien. Son corps lui fait du mal. Son corps lui fait mal. Il est devenu la cause d'une plainte et d'une détresse. Et elle préférerait ne plus lui être liée. Et elle le dit. Mais ce corps douloureux et qu'elle maudit, a-t-il cessé d'être sa présence dans le monde? Et en particulier sa présence dans le monde des humains. Ceux-ci doivent-ils confirmer que chacun se débrouille seul pour être heureux et que celui qui n'y est pas arrivé peut se servir de son corps pour mettre un terme à sa vie? Car l'euthanasie suppose une action sur le corps. De façon un peu provocante, Xavier Dijon avait posé l'objection ultralibérale à la position catholique du refus de l'euthanasie comme ceci. Nous rendons possible l'euthanasie, mais si vous choisissez de souffrir, nous ne voulons pas contrarier votre choix, nous. Cette caricature de la position de l'Église doit être dénoncée comme un mensonge. Le refus de l'euthanasie n'est pas le choix de la souffrance, ni de faire souffrir, ni même de laisser souffrir. C'est le choix de rester solidaire dans la vie et pour la vie, en mettant en œuvre tout ce qui est possible pour que la souffrance soit allégée et l'angoisse apaisée. À l'euthanasie, qui signifie effectivement tu es seul avec ta souffrance et vivre ne vaut plus la peine dans ton cas, les soins palliatifs répondent par la mobilisation d'une équipe autour de la personne en détresse. Elle manifeste que nos existences corporelles sont interdépendantes. Nous pouvons nous faire du bien les uns aux autres. Nous l'avons vu spécialement ce matin dans les exemples des chemins d'humanité proposés par Olivier Bonnewein aux situations de malades dépourvues d'espoir de guérison. Donc, nous avons vu en sous-groupe ce matin ce que Olivier Bonnewein a proposé au colloque parlementaire du 11 juin de cette année sur cette question. Donc, il défendait la position catholique en présence d'un représentant de la religion musulmane et d'un représentant de la religion juive. J'en profite pour faire remarquer que le catholique qu'il était le seul à défendre la position à partir des arguments de la raison. Pour les musulmans et pour les juifs, c'est évident que l'euthanasie est inacceptable parce que c'est contre la volonté de Dieu. Mais si un catholique dit simplement « c'est contre la volonté de Dieu », il n'a pas de chance d'être entendu. Voilà. Donc, j'en viens ainsi à la troisième rupture mensongère sur le bonheur. L'illusion que le oui à l'euthanasie confirmerait que mon bonheur doit être rendu indépendant de celui des autres. C'est l'ultralibéralisme Certes, la vie de chaque vivant lui est confiée. Et il fait partie de la loi naturelle, tant prémorale que morale, l'obligation de maintenir cette vie contre les manques de la faim et de la soif, contre les agressions et contre simplement l'inertie, caractéristique de la matière inanimée, qui la fait tendre vers un repos, entre guillemets, qui ne précède aucun jaillissement de vie. Vivre, c'est résister sans cesse à cette inertie qui mène les choses à un repos sans vie. Donc vivre, c'est être responsable de sa vie. Cette responsabilité de soi comporte pour les humains la tentation de vouloir que tout soit au service de ma vie et de l'y contraindre. Malheur. Malheur à l'être humain qui se serait rendu incapable de voir que tant de réalités autour de lui ont déjà été mises au service de sa vie, avant même qu'il ait une volonté consciente, et mise au service de sa vie non seulement par la nature, mais aussi par les autres, qui s'imagine devoir faire seul son bonheur, fait son malheur. Je ne dis pas que le sentiment d'être abandonné ne peut pas apparaître chez ceux qui ont fait confiance aux autres, mais dont la souffrance présente se mue en détresse. On me laisse souffrir. Je dis seulement que l'euthanasie comme réponse à cette détresse contrarie de plein fouet la vérité que nous pouvons ne pas abandonner les autres, ni à la souffrance, ni à la détresse, ni à l'angoisse. Voilà, j'ai donc voulu exposer que l'enjeu plus profond que le refus d'une loi qui légaliserait l'euthanasie ou la nécessité de faire révoquer cette loi n'est pas seulement un problème d'éthique médicale, ça touche à la racine vraiment la conception que nous nous faisons tous du bonheur. Et que ce bonheur passe par l'acceptation que le bien nous a précédé, qu'il est à recevoir, qu'il se propose à nous pour y collaborer, l'acceptation que la réalité corporelle est le lieu où nous pouvons nous faire du bien les uns aux autres, ou le refuser, et justement l'acceptation que on ne peut pas être heureux tout seul, même si on le voudrait pour se protéger de la possible malveillance des autres. Alors, je vois que j'aurais terminé beaucoup plus tôt que je ne pensais, mais ça ne fait rien, le débat sera d'autant plus nourri. Donc, je viens à ma troisième partie sur la dignité de la personne humaine et l'estime de soi. Pour le père Patrick Verspieren, jésuite, accompagnateur d'étudiants et d'étudiantes en médecine depuis des décennies au centre Laennec à Paris, accompagnateur de médecins et d'infirmières, spécialiste d'éthique médicale, connaisseur de bien des situations limites où les décisions à prendre ne se tranchent pas au couteau des principes évidents, pour lui, le refus de toute légalisation de l'euthanasie a été constant. Son argument est simple, mais il ouvre un monde de réflexion sur la dignité de la personne malade et celle des personnes qui l'entourent. Cet argument est celui-ci. Lorsqu'une personne demande l'euthanasie, elle dit au moins implicitement « Ma vie ne vaut plus la peine ». Celui qui accède à la demande d'euthanasie confirme, même s'il se dit mu par la compassion, « Ta vie ne vaut plus la peine ». Alors, je voulais ici vous lire un extrait. Je vais vous demander 3 minutes de pause, donc hein, vous pouvez discuter entre vous sur ce qui a été dit jusqu'ici. Je vais chercher le volume dans mon bureau, c'est pas loin. Donc le père Patrick Verspieren a écrit cela dans des écrits plus récents aussi, mais je prends ici un exposé qu'il a fait ici à Liété, donc en 92-93, dans le séminaire sur la bioéthique, la mort aujourd'hui, et qui témoigne de sa constance dans ce domaine. Il est vrai que jusqu'à présent, dit-il, on a fait des exceptions à l'interdit de l'homicide, mais on ne l'a fait que quand il y avait une situation de violence, par exemple en cas de légitime défense. Faire une exception en raison d'une demande du malade serait entrer dans un nouveau champ. C'est sortir du domaine actuellement reconnu pour permettre des exceptions à l'interdit de tuer. C'est sortir de ce domaine. On peut se poser la question s'il n'est pas souhaitable de sortir de ce domaine, de reconnaître comme une exception une véritable demande de mourir de la part du malade. On ne peut échapper à cette question, il faut la considérer. Seulement, si on peut se poser cette question, il faut s'interroger. Il faut se demander, que demande le malade qui demande la mort? Vous me direz, voilà une question à laquelle la réponse est facile. Que demande le malade qui demande la mort? Eh bien, c'est la mort. Eh bien non, pas forcément. Là, je me réfère à tous les médecins qui ont écouté les malades qui demandent la mort. Ils ont constaté l'ambivalence des malades. Cette demande est formulée en cas de grande détresse, faite de douleurs physiques, mais aussi et surtout d'un doute sur la valeur de soi. Cela renvoie à toutes les expressions de perte de dignité, souvent présentes, qui désignent le plus souvent un sentiment de perte de valeur, un sentiment d'être devenu inutile, d'être devenu une charge pour autrui, d'être très gravement atteint dans son apparence corporelle. Ces médecins font remarquer que cela représente une épreuve lourde pour le malade, mais que cette épreuve n'est pas sans remède, que si l'on soulage la douleur, si l'on écoute le malade dans le désarroi qu'il exprime, si on exprime de son côté attachement et estime pour le malade, alors on l'aide à vivre et il ne réitère pas sa demande de mort. Ce qui voulait dire que le malade n'en pouvait plus de vivre dans les conditions antérieures de sa vie. cela devrait conduire à changer ses conditions de vie et non pas à prendre le malade au mot. Changer les conditions de vie et non pas prendre le malade au mot. Il ne s'agit pas uniquement de traiter la douleur. Il y a beaucoup plus à faire. Aider le malade à sortir d'un sentiment de perte de valeur. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Là, il n'y a pas de recette technique. Et cela ne peut se faire que dans une écoute, dans une proximité humaine, dans le fait que soi-même, on éprouve estime et attachement pour le malade. Donc cela soumet le soignant et la famille à une certaine épreuve. Non, ce n'est pas facile, mais en éthique, nous sommes appelés à aider un tel malade, à traverser sa souffrance et à l'aider à retrouver un désir de vivre. Tandis qu'à l'inverse, écouter avec connivence cette demande, c'est renforcer la perte d'estime du malade. C'est lui signifier « Tu crois que ta vie n'a plus de sens ? Eh bien, moi aussi je le crois. » C'est enfermer dans le désespoir et barrer la route à toute évolution chez ce malade. En ayant choisi comme nom l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, les partisans de l'euthanasie, à la demande de l'intéressé, ont à mon sens pris le mot « dignité » dans un piège. Car la dignité dont ils parlent n'est pas la valeur intrinsèque, indisponible, inaliénable de tout membre de la famille humaine, fût-il un avorton, un grand mutilé ou une personne défigurée par la démence, mais l'image que je me fais de ma valeur aux yeux des autres et qui devient le juge de ma valeur à mes propres yeux. En adhérant à cette association, ce que je souhaite et veux confirmer dans le béton d'une loi civile, c'est le droit de mourir dans ma dignité. Aucun d'entre nous n'aime le déshonneur. Nous fuyons l'humiliation plus que tout. Et il faut parfois du temps et la fréquentation de personnes authentiquement humbles, à commencer par des pauvres et des petits, et dans la foi, le Christ à Gethsémani ou sur la croix. Il faut du temps et cette fréquentation pour s'en rendre compte. Mais le sens de l'honneur de l'ADMD est un piège. Il nous attache à une image de nous-mêmes. Il nous empêche de nous recevoir de la bienveillance et au besoin de la miséricorde des autres, bien plus capables de nous faire découvrir notre vraie valeur. Sur l'humiliation et la possibilité qu'elle ne soit pas la fin de tout, je vous invite à lire le dernier livre de Jean Vanier, « Signe des temps », à la lumière de Vatican II. Je me réfère à Jean Vanier parce que je n'ai pas l'expérience personnelle des unités de soins palliatifs ou des centres accueillant des personnes avec lesquelles il semble ne plus y avoir de communication. Donc les personnes en état végétatif chronique. Mais j'ai vu, à l'Arche de Jean Vanier, de jeunes assistants changer au contact de personnes ayant un grave handicap mental, parfois à peine capables de mouvement. Le temps, le service quotidien de la même personne, sans aucun goût pour le faire au début, et sans doute cette capacité du cœur humain pour l'amitié, ont transformé la relation en une vraie relation d'amour, au sens d'une joie de la vie de l'autre, d'un désir de le retrouver, d'un bonheur de pouvoir en prendre soin. Avec là où il est possible de le déceler, cette réciprocité par laquelle la personne handicapée mentale manifeste son apaisement, sa détente en présence de l'assistant, et quand elle le peut, manifeste sa joie par des sourires ou des gestes. La dignité est à la fois intrinsèque à la personne et relationnelle. C'est le mystère même de l'humanité que d'autres puissent me reconnaître, indépendamment de mes succès et de mes exploits, une valeur pour moi-même, et que je sois capable de la même reconnaissance envers eux. Je peux reconnaître à tout autre être humain une valeur dont il est porteur indépendamment de ses actes et de ses capacités. La dignité est là. Ce n'est pas moi qui crée l'autre et sa valeur par mon regard. La dignité est là et elle m'est confiée. Nous retrouvons ici un lien entre l'être et le devoir-être, comme le père Dijon nous l'avait évoqué à propos de l'unité âme-corps et à l'encontre du positivisme juridique. Mais ici, le devoir est confié aux autres. La reconnaissance de ma dignité, la fameuse estime de soi de Patrick Verspieren, va dépendre des manifestations par les autres que je vaux la peine. C'est ça le mystère de l'humanité, hein. C'est que nous ne nous créons pas notre dignité les uns des autres, et pourtant nous devons la reconnaître. Et nous pouvons nous y refuser. Mais l'humanité est vraiment caractérisée par cette obligation, morale, de reconnaître la valeur de l'autre parce qu'il est mon semblable, parce qu'il est membre de la famille humaine. Et pourtant, comme pour le reconnaître, j'ai besoin du regard des autres, il y a là un défi permanent, mais en même temps le fondement de toutes nos obligations éthiques. Je suis parti de l'exemple des personnes ayant un grave handicap mental, parce que c'est dans la relation à elles qu'apparaît qu'elles ont une dignité bienfaisante pour qui sait l'accueillir, indépendamment de toute capacité à se montrer beau, grand, bienfaisant et sans faiblesse. Donc la personne privée, si on peut dire, de moyens de briller socialement, comme ces personnes handicapées mentales des foyers où je les ai vues, ont une dignité bienfaisante pour qui l'accueille. Les assistants grandissent en humanité, et pas par devoir, mais par un vrai contact humain. Donc ça n'a rien à voir avec cette dignité de la DMD. Mais les soins palliatifs s'adressent souvent à des gens qui peuvent encore cheminer eux-mêmes, à la différence donc des personnes en état végétatif chronique ou des personnes handicapées mentales dont on ne voit que trop peu qu'elles aient une évolution. Mais dans les soins palliatifs, beaucoup de gens sont encore conscients et peuvent cheminer eux-mêmes dans la prise de conscience ou dans la restauration de l'estime de soi. Comme le disait Patrick Verspieren, il n'y a pas de procédé technique pour que cette restauration advienne. Mais si tout l'entourage de la personne malade lui manifeste cette reconnaissance de sa dignité, lui manifeste « tu as du prix à mes yeux », chacun à sa place et selon sa compétence. Le conjoint n'est pas le kiné, le médecin n'est pas le fils ou la fille, l'infirmière n'est pas le psychologue ou la cuisinière. Mais si l'équipe soutient chacun de ses membres dans les moments de découragement et de ras-le-bol, une chance est laissée à la personne de retrouver l'estime de soi et par là, sa raison de vivre. Donc mon père, qui est psychiatre, dit que la dépression, en fait, c'est un effondrement de l'image de soi. Et j'ai beaucoup réfléchi là-dessus et je crois que c'est tout à fait vrai. Et la personne qui demande l'euthanasie, au fond, fait une demande dépressive. Et remarquez qu'on demande l'euthanasie à son médecin généraliste. Pourquoi est-ce qu'on ne la demande pas à son psychiatre? Ça vaut la peine de se poser la question. Si le médecin généraliste admettait qu'il a une responsabilité relationnelle d'alliance, comme le psychiatre le sait d'emblée, la demande d'euthanasie n'aurait même pas de sens. Alors je termine en disant ceci, c'est le même type d'abandon de sa valeur à la reconnaissance des autres qui permettra aussi aux personnes de bien mourir. C'est parce que j'abandonne la reconnaissance de ma valeur aux autres, et pour les croyants, au tout autre, que je peux mourir, mourir dans la vraie dignité. La dignité est donc, sans jeu de mots à l'égard des spécialistes de la santé, une question d'hospitalité. Voilà. Rupture de l'alliance thérapeutique ou maintien de l'hospitalité réciproque, tel est l'enjeu de débat sur ces lois. Merci de votre attention. Nous faisons une petite pause de 5-6 minutes et puis nous aurons le débat.